J'ai parlé jusqu'ici du culte extérieur. J'en viens à présent aux articles de foi. Les dogmes de chaque Église regardent la pratique ou la spéculation. Et, quoique les unes et les autres aient la vérité pour objet, ceux-ci ne s'adressent qu'à l'entendement, au lieu que les premiers influent en quelque manière sur la volonté et sur les mœurs. Pour ce qui est des dogmes spéculatifs qu'on appelle articles de foi, et qui n'exigent autre chose de nous que la croyance, ils ne sauraient être imposés à aucune Église par la loi de l'État, car il est absurde de prescrire aux hommes, en vertu de la loi, des choses qu'il n'est pas en leur pouvoir d'accomplir. Or, quand même nous le voudrions, il ne dépend pas de nous de croire que telle ou telle chose soit véritable. Mais, sans répéter ce que j'ai dit là-dessus, me soutiendra-t-on qu'une profession extérieure de ces articles suffit? Si cela est, ô la belle religion qui permet aux hommes d'être hypocrites et de mentir à Dieu pour le salut de leurs âmes! Si c'est ainsi que le magistrat civil croit leur procurer la vie éternelle, il me semble qu'il n'en connaît guère le chemin. Ou, s'il n'agit pas dans cette vue, pourquoi montre-t-il un zèle si empressé pour les articles de foi, et pourquoi leur donner l'appui de la loi? D'ailleurs, le magistrat n'a nul droit d'empêcher qu'une église croie ou enseigne des dogmes de spéculation, parce que cela ne regarde point les intérêts civils des sujets. Si un catholique romain croit que ce qu'un autre appelle du pain est le véritable corps de Jésus-Christ, il ne fait aucun tort à son prochain. Si un juif ne croit pas que le Nouveau Testament soit la parole de Dieu, les autres en jouissent-ils moins de tous leurs droits civils? Et si un païen rejette le Vieux et le Nouveau Testament, faut-il le punir comme un mauvais citoyen qui est indigne de vivre? Soit que l'on croit ou que l'on ne croit pas ces choses, le pouvoir du magistrat et les biens des sujets sont à couvert et en sûreté. J'avoue que ces opinions sont fausses et absurdes. Mais les lois n'ont pas à décider de la vérité des dogmes. Elles n'ont en vue que le bien de la conservation de l'État et des particuliers qui le composent. Voilà, du moins, ce qui devrait être, et certes, la vérité peut bien se défendre d'elle-même si l'on consent une fois à l'abandonner à ses propres forces. Le pouvoir des grands, qui ne la connaissent guère, et de qui elle n'est pas toujours bienvenue, ne lui a jamais donné, et probablement ne lui donnera jamais, qu'un faible secours. Elle n'a pas besoin de la violence pour s'insinuer dans l'esprit des hommes, et les lois civiles ne l'enseignent pas. Si elle n'illumine l'entendement par son propre éclat, la force extérieure ne lui sert de rien. Les erreurs, au contraire, ne dominent que par le secours étranger qu'elles empruntent. Mais en voilà assez sur ces opinions spéculatives. Passons à celles qui regardent la pratique. Les bonnes mœurs, qui ne sont pas la moindre partie de la religion et de la véritable piété, se rapportent aussi à la vie civile, et le salut de l'État n'en dépend guère moins que celui des âmes, de sorte que les actions morales relèvent de l'une et de l'autre juridiction, extérieure et intérieure, civile et domestique, c'est-à-dire du magistrat et de la conscience. Il est donc fort à craindre que l'une empiète sur les droits de l'autre, et qu'il y ait un conflit entre le conservateur de la paix publique et ceux qui ont la direction des âmes. Mais si l'on pèse bien ce que nous avons déjà dit sur les limites de ces deux sortes de gouvernements, on triomphera facilement de ces difficultés. Tout homme a une âme immortelle, capable d'un bonheur ou d'un malheur éternel, et dont le salut dépend de l'obéissance qu'il aura rendue, dans cette vie, aux ordres de Dieu, qui lui a prescrit de faire et de croire certaines choses. Il suit de là, premièrement, que l'homme est obligé surtout à l'observation de ses ordres, qu'il doit employer tous ses soins et toute la diligence possible pour les connaître et s'y assujettir, puisqu'il n'y a rien dans le monde qui puisse entrer en comparaison avec l'éternité. Il s'ensuit, en second lieu, que, puisqu'un homme qui se trompe dans le culte qu'il rend à Dieu ou dans les dogmes spéculatifs sur la religion ne fait aucun tort à son prochain et que sa perte n'entraîne point celle des autres, chacun a droit de travailler tout seul au salut de son âme. Ce n'est pas que je veuille bannir de la société les avis charitables et les efforts assidus pour tirer de l'erreur ceux qui s'y trouvent engagés, puisque ce sont les principaux devoirs du chrétien. On peut employer tant d'avis et de raisons que l'on voudra pour contribuer au salut de son frère. Mais on doit s'interdire toute violence et toute contrainte. Rien ne doit se faire ici par autorité. Nul n'est obligé, en cette occasion, d'obéir au conseil d'un égal ou aux ordres d'un supérieur, qu'autant qu'il se sent persuadé. Chacun doit juger sur cela pour soi-même en dernier ressort, parce qu'il ne s'agit que de son propre intérêt et que les autres ne peuvent recevoir aucun préjudice de sa détermination à cet égard. Mais outre l'âme qui est immortelle, les hommes ont un corps qui les attache à cette vie périssable et dont la durée est incertaine, et qui a besoin, pour s'entretenir, de plusieurs commodités que ce monde leur fournit et qu'ils doivent acquérir ou conserver par leur travail et leur industrie. Du moins, la terre ne produit pas d'elle-même tout ce qui est nécessaire pour nous rendre la vie agréable. C'est ce qui engage les hommes à de nouveaux soins et à s'occuper des choses qui regardent la vie présente. Mais leur corruption est si grande qu'il y a en plusieurs qui aiment mieux jouir du travail des autres que de s'y adonner eux-mêmes. De sorte que, pour se conserver la jouissance de leurs biens et de leurs richesses, ou de ce qui leur sert à les acquérir, comme sont la force et la liberté du corps, ils sont obligés de s'unir ensemble afin de se prêter un secours mutuel contre la violence et que chacun puisse jouir sûrement de ce qui lui appartient en propre. Cependant, il laisse à chaque particulier le soin de son salut, parce que l'acquisition de ce bonheur éternel dépend de son application et non pas de celle d'un autre, qu'il n'y a point de force extérieure qui lui puisse ravir l'espérance qu'il en a conçue et que sa perte ne fait aucun préjudice aux intérêts d'autrui. D'ailleurs, quoique les hommes aient formé des sociétés pour se protéger mutuellement et s'assurer la possession de leurs biens temporels, ils en peuvent être dépouillés soit par la fraude et la rapine de leurs concitoyens ou par les entreprises d'ennemis étrangers. Pour remédier au premier de ces désordres, ils ont fait des lois et, pour prévenir ou repousser l'autre mal, ils emploient les armes, les richesses et les bras de leurs compatriotes, et ils ont remis l'exécution et le maniement de toutes ces choses aux magistrats civils. C'est là l'origine et le but du pouvoir législatif, qui constitue la souveraineté de chaque État. Telles sont les bornes où il est renfermé, c'est-à-dire que le magistrat doit faire en sorte que chaque particulier possède sûrement ce qu'il a, que le public jouisse de la paix et de tous les avantages qui lui sont nécessaires, qu'il augmente en force et en richesse, et qu'il ait, autant qu'il est possible, les moyens de se défendre par lui-même contre les invasions des étrangers. Cela posé, il est clair que le magistrat ne peut faire des lois que pour le bien temporel du public, que c'est l'unique motif qui a porté les hommes à se joindre en société les uns avec les autres, et le seul but de tout gouvernement civil. On voit aussi, par là, que chacun a la pleine liberté de servir Dieu de la manière qu'il croit lui être la plus agréable, puisque c'est du bon plaisir du Créateur que dépend le salut des hommes. Il faut donc qu'ils obéissent premièrement à Dieu et ensuite aux lois. Mais, dira-t-on, si le magistrat ordonne des choses qui répugnent à la conscience des particuliers, que doivent-ils faire en pareil cas? Je réponds que cela ne peut arriver que rarement, si les affaires sont administrées de bonne foi et pour le bien commun des sujets. Mais si, par malheur, il y a un tel édit, alors chaque particulier doit s'abstenir de l'action qu'il condamne en son cœur et se soumettre à la peine que la loi prescrit et que, du moins, il peut subir sans crime. Car le jugement que chacun porte d'une loi politique, faite pour le bien du public, ne dispense pas de l'obligation où l'on est de lui obéir et l'on ne doit y avoir aucun égard. D'ailleurs, si la loi se rapporte à des choses qui ne sont pas du ressort du magistrat, si elle exige, par exemple, que tous les sujets ou une partie d'entre eux embrassent une autre religion, ceux qui désapprouvent ce culte ne sont pas tenus d'obéir à la loi, parce que la société politique ne s'est formée que pour la conservation des biens temporels de cette vie, et que chacun s'est réservé le soin de son âme, qui n'a jamais pu dépendre du gouvernement civil. Ainsi, la protection de la vie et de toutes les choses qui la regardent est l'affaire du public, et il est du devoir du magistrat d'en conserver la jouissance à ceux qui les possèdent. Il ne peut donc les ôter ni les donner à qui lui plaît, ni en dépouiller quelques-uns, pour une cause qui n'est pas du ressort du gouvernement civil, c'est-à-dire sous prétexte de leur religion, qui, soit qu'elle se trouve fausse ou vraie, ne porte aucun préjudice aux biens temporels des autres citoyens. Mais, ajoute-t-on, si le magistrat croit qu'une pareille ordonnance est utile au bien du public, ne doit-il pas la faire? Voici ma réponse. Comme le jugement de chaque particulier, s'il est faux, ne l'exempte pas de l'obligation où il se trouve à l'égard des lois, de même que le jugement particulier, pour ainsi dire, du magistrat, ne lui acquirent pas un nouveau droit d'imposer des lois au peuple, puisque ce droit ne faisait point partie de la constitution civile et qu'il ne dépendait pas même du peuple de l'accorder. Bien moins encore, s'il en agit de cette manière pour enrichir ceux de sa secte aux dépens du bien des autres. Mais si le magistrat croit que ce qu'il commande est en son pouvoir et utile au public, et que les sujets en aient une toute autre opinion, qui sera juge de leurs différends? Je réponds que c'est Dieu seul, parce qu'il n'y a point de juge ici-bas entre le législateur et le peuple. C'est Dieu, dis-je, qui est le seul arbitre dans ce cas, et qui, au dernier jour, rendra à chacun selon ses œuvres, c'est-à-dire selon que nous aurons travaillé sincèrement et de bonne foi à procurer le bien et la paix du public, à pratiquer la justice et à suivre la vertu. Que faire cependant, dira-t-on, et quel remède y a-t-il? Il faut que chacun tourne ses premiers soins du côté de son âme, et ensuite qu'il évite, autant qu'il lui sera possible, de troubler la paix de l'État. Mais il y a peu de personnes qui s'imaginent devoir régner la paix dans les lieux où tout est réduit à une triste solitude. Les hommes ont deux voies pour terminer leurs différends, celle de la justice et celle de la force. Mais telle est la nature des choses que toujours l'une commence là où l'autre finit. Au reste, ce n'est pas mon affaire d'examiner jusqu'où s'étendent les droits des magistrats dans chaque nation. Je vois seulement ce qui se pratique dans le monde lorsqu'il n'y a point de juge pour décider les controverses. De sorte, me direz-vous, que le magistrat, qui a toujours la force en main, ne manquera pas de faire prévaloir sa volonté et d'exécuter ses desseins. Cela est vrai. Mais il s'agit ici de la règle du droit et de l'équité, et non pas du bon ou du mauvais succès que peut avoir une entreprise douteuse. Cependant, pour en venir à un détail plus particulier, je dis, en premier lieu, que le magistrat ne doit tolérer aucun dogme qui soit contraire au bien de l'État et aux bonnes mœurs, si nécessaire pour la conservation de la société civile. Mais, à dire vrai, il y a peu d'églises où l'on trouve quelque exemple d'une pareille doctrine. En effet, quelle secte porterait la folie jusqu'à ce point que d'enseigner, comme article de foi, des dogmes qui tendent non seulement à la ruine de la société civile et sont combattus par l'opinion générale de tous les hommes, mais qui vont aussi à la priver elle-même de son repos, de ses biens, de sa réputation et de tout ce qu'elle a de plus cher au monde. Mais il y a un autre mal plus caché et plus dangereux que celui-là. Je veux dire le privilège que certaines gens s'attribuent contre toutes sortes de droits et à l'exclusion de toutes les autres sectes et qu'ils couvrent d'une belle apparence et sous l'enveloppe de grands mots propres à éblouir. Par exemple, on ne trouvera presque nulle part des personnes qui enseignent expressément et ouvertement que l'on n'est pas obligé de tenir sa parole, que les princes peuvent être détrônés par ceux qui ne sont pas de leur religion, des gens, en un mot, qui prétendent qu'eux seuls doivent gouverner tout le reste du monde. S'ils proposaient la chose d'une manière si crue, il ne faut pas douter qu'ils n'excitassent d'abord le magistrat et la République à prévenir les suites de ce poison mortel qu'ils couvent dans leur sein. Cependant, on voit des personnes qui disent la même chose en d'autres termes. Car que veulent dire ceux qui enseignent qu'on ne doit pas garder la foi aux hérétiques? Ne demandent-ils pas, en effet, qu'on leur accorde le privilège de manquer de parole aux autres, puisqu'ils tiennent pour hérétiques tous ceux qui ne sont pas de leur communion, ou qu'ils peuvent déclarer tels toutes les fois que bon leur semble? Quel est le but de ceux qui avancent qu'un roi excommunié est déchu de son trône, si ce n'est de faire voir qu'ils s'attribuent le droit de dépouiller les rois de leur couronne, puisqu'ils soutiennent que le droit d'excommunication n'appartient qu'à leur hiérarchie? Ceux qui supposent que la domination est fondée sur la grâce ne prétendent-ils pas jouir en maître de tous les biens que les autres possèdent, puisqu'ils ne sont pas assez ennemis d'eux-mêmes pour ne pas croire, ou ne pas dire du moins, qu'ils sont les vrais fidèles et le peuple de Dieu? Ces gens-là, et tous ceux qui accordent aux fidèles et aux orthodoxes, c'est-à-dire qui s'attribuent à eux-mêmes un pouvoir tout particulier dans les affaires civiles et qui, sous prétexte de religion, veulent dominer sur la conscience des autres, n'ont droit à aucune tolérance de la part du magistrat, non plus que ceux qui refusent d'admettre et de prêcher ce support mutuel en faveur de tous ceux qui ne sont pas de leur communion. Qu'est-ce en effet qu'enseignent ces intolérants? Leur doctrine n'insinue-t-elle pas qu'ils n'attendent qu'une occasion favorable pour envahir les droits de la société, les biens et les privilèges de leurs compatriotes, et qu'ils ne demandent la tolérance du magistrat que pour en priver les autres, dès qu'ils auront les moyens et la force d'en venir à bout? De plus, une Église dont tous les membres, du moment où ils y entrent, passent ipso facto au service et sous la domination d'un autre prince, n'a nul droit à être tolérée par le magistrat, puisque celui-ci permettrait alors qu'une juridiction étrangère s'établît dans son propre pays et qu'on employât ses sujets à lui faire la guerre. On a beau distinguer ici entre la cour et l'Église, c'est une distinction vaine et trompeuse, qui n'apporte aucun remède au mal, puisque l'une et l'autre sont soumises à l'empire absolu du même homme, qui, dans tout ce qui regarde le spirituel, et dans tout ce qui peut y avoir quelque rapport, insinue tout ce qu'il veut aux membres de son Église, ou le leur commande même sous peine de damnation éternelle. Ne serait-il pas ridicule qu'un mahométan prétendît être le bon et fidèle sujet d'un prince chrétien, s'il avouait d'un autre côté qu'il doit une obéissance aveugle au moufti de Constantinople, qui est soumis lui-même aux ordres de l'empereur ottoman, dont la volonté lui sert de règle dans tous les faux oracles qu'il prononce sur le chapitre de sa religion? Mais ce Turc ne renoncerait-il pas plus ouvertement à la société chrétienne où il se trouve, s'il reconnaissait que la même personne est tout à la fois le souverain de l'État et le chef de son Église? Enfin, ceux qui nient l'existence d'un Dieu ne doivent pas être tolérés, parce que les promesses, les contrats, les serments et la bonne foi, qui sont les principaux liens de la société civile, ne sauraient engager un athée à tenir sa parole, et que si l'on bannit du monde la croyance d'une divinité, on ne peut qu'introduire aussitôt le désordre et la confusion générale. D'ailleurs, ceux qui professent l'athéisme n'ont aucun droit à la tolérance sur le chapitre de la religion, puisque leur système les renverse toutes. Pour ce qui est d'autres opinions qui regardent la pratique, quoiqu'elles ne soient pas exemptes de toutes sortes d'erreurs, si elles ne tendent point à faire dominer un parti ni à secouer le joug du gouvernement civil, je ne vois pas qu'il y ait aucun lieu de les exclure de la tolérance. Il me reste à parler de ces assemblées qu'on croit former le plus grand obstacle au dogme de la tolérance, je veux dire ces églises qu'on nomme des conventicules et les pépinières des factions et des révoltes. J'avoue qu'elles peuvent en avoir produit quelquefois. Mais on doit plutôt en attribuer la cause à la liberté opprimée ou mal établie qu'à l'esprit particulier de ces assemblées. Si toutes les églises qui ont droit à la tolérance étaient obligées d'enseigner et de poser, comme le fondement de la liberté dont elles jouissent, qu'elles se doivent supporter les unes les autres et qu'il ne faut contraindre personne sur la religion, toutes ces accusations s'évanouiraient bientôt, et toutes ces assemblées ne seraient ni moins nuisibles, ni plus en danger de troubler l'État que toute autre réunion. Mais considérons plus particulièrement les principaux reproches qu'on leur adresse. On craint en effet que ces assemblées nombreuses ne soient dangereuses pour l'État et ne troublent la tranquillité publique. Mais si cela est, pourquoi permet-on, je vous prie, que le peuple se rende en foule au marché public et dans les cours de judicature? Pourquoi souffre-t-on ce concours de peuple dans les villes et cette foule qui se réunit à la bourse? Vous me répliquerez que ces dernières assemblées ne regardent que le civil, au lieu que les autres, dont il s'agit, ont en vue le spirituel. Est-ce donc que, plus on s'éloigne du maniement des affaires civiles, plus on est disposé à les embrouiller et à y causer du désordre? Ce n'est pas cela, me direz-vous, mais les hommes qui s'assemblent pour traiter de leurs intérêts civils sont de différentes religions, au lieu que les membres des assemblées ecclésiastiques professent tous la même croyance. Comme si l'accord en matière de religion était une conspiration contre l'État, ou comme si l'on ne voyait pas tous les jours que moins les sectes ont la liberté de s'assembler en public, plus elles sont unies dans leurs sentiments. Mais il est permis à tout le monde, ajouterez-vous, de se trouver aux assemblées où il ne s'agit que de la police et du civil, au lieu qu'il n'y a que les sectaires qui se rendent à leur conventicule, où il est ainsi facile de tramer des machinations secrètes au préjudice de l'État. Cela n'est pas exactement vrai, puisqu'il y a des assemblées où l'on ne traite que d'affaires temporelles et où l'on n'admet point toutes sortes de gens. D'un autre côté, si quelques personnes font des assemblées clandestines pour servir Dieu à leur manière, qui doit-on blâmer, je vous prie, ou ceux qui les célèbrent, ou ceux qui s'y opposent? Mais la communion du même culte, insisterez-vous, unit étroitement les esprits, et c'est ce qui la rend beaucoup plus dangereuse. Je vous dirai à mon tour, si cela est, d'où vient que le magistrat n'appréhende pas la même chose de la part de son Église, et qu'il ne lui défend pas de s'assembler? Est-ce parce qu'il en est le chef et l'un de ses membres? Mais n'est-il pas aussi le chef et l'un des membres de tout le peuple? Avouons la vérité. Il craint les églises non conformistes et non pas la sienne, parce qu'il protège celle-ci et la comble de ses faveurs, pendant qu'il maltraite et opprime les autres, parce qu'il caresse les uns comme des enfants de la maison, et qu'il a pour eux une indulgence presque aveugle, pendant qu'il regarde les autres comme des esclaves, qui ne doivent attendre le plus souvent, pour toute récompense d'une vie innocente, que la prison, les fers, l'exil, la perte de leurs biens et la mort même. Enfin, parce qu'ils souffrent tout aux uns et que les autres sont punis pour le moindre sujet. Qu'ils prennent des mesures tout opposées, ou que les non-conformistes jouissent des mêmes privilèges civils que leurs concitoyens, et il verra bientôt qu'il n'a rien à craindre des assemblées religieuses. Si les hommes pensent à la révolte, ce n'est pas à leur religion ni à leur conventicule qu'on doit en attribuer la cause, mais plutôt au châtiment et à l'oppression qu'ils endurent. La tranquillité règne partout où le gouvernement est doux et modéré, au lieu que l'injustice et la tyrannie causent presque toujours le trouble et le désordre. Je sais bien qu'il s'élève souvent des séditions sous le prétexte de la religion. Mais il est également vrai que les sujets sont souvent maltraités et persécutés à cause de leur religion. Croyez-moi, cet esprit de révolte, dont on fait tant de bruit, n'est pas attaché à quelque église particulière ou à certaines sociétés religieuses. Il est commun à tous les hommes qui n'oublient rien pour secouer le joug sous le poids duquel ils gémissent. Supposez, la religion mise à part, qu'un prince s'avisa de distinguer ses sujets selon la différence du teint ou des traits de leur visage, en sorte que ceux qui auraient les cheveux noirs et les yeux bleus ne puissent faire aucun commerce ni exercer aucun métier, qu'on les dépouillât du soin et de l'éducation de leurs enfants et qu'on ne leur rendît aucune justice. Ne croirez-vous pas que le prince aurait autant à craindre de la part de ces hommes que leur ressemblance enveloppe dans la même disgrâce que de la part de ceux que la même religion associe? Le désir du gain et des richesses excite les uns à former des sociétés pour le trafic, l'envie de se divertir fait que les autres ont leur rendez-vous, le voisinage produit la liaison de ceux-ci, et la religion porte cela à se rendre dans le même temple pour adorer la divinité. Mais il n'y a que l'oppression toute seule qui engage le peuple à s'attrouper, à se porter à la révolte et à courir aux armes. Quoi donc, me direz-vous, faut-il que le peuple célèbre des assemblées religieuses contre la volonté du magistrat? Et pourquoi contre sa volonté? N'est-ce pas une chose qui doit être permise et qui est même nécessaire? Contre sa volonté, dites-vous? C'est cela même dont je me plains, c'est là la source de tout le mal. D'où vient que le concours des hommes dans une église choque plus qu'au théâtre ou à la promenade? Sont-ils moins vicieux et moins turbulents ici que là? Non, sans doute. Mais le fait est qu'on les maltraite lorsqu'ils s'assemblent pour prier Dieu, et l'on prétend, à cause de cela, qu'ils ne méritent aucune tolérance. Qu'on cesse d'être partial à leur égard, qu'on rende la justice à tous, qu'on les délivre des peines et des amendes, et on verra bientôt le calme succéder à l'orage, la paix et la tranquillité publique, aux murmures et aux séditions. Plus les non-conformistes trouveront de douceur sous un gouvernement, plus ils travailleront à maintenir la paix de l'État, et toutes les différentes églises qui le composent, persuadées qu'elles ne peuvent jouir nulle part ailleurs des mêmes avantages, seront comme les gardes fidèles du repos public et s'observeront les unes les autres pour empêcher les troubles et les révoltes. Que si l'Église, qui est de la religion du souverain, est regardée comme le plus ferme appui du gouvernement, par cela seul que les lois et le magistrat la favorisent, quelle ne sera pas la force d'un État dans lequel tous les bons citoyens jouiront également de la faveur du prince et de la protection des lois, sans qu'il y ait aucune différence entre eux sous le rapport de leur religion, quelle qu'elle soit, et lorsque la sévérité des lois ne sera à craindre que pour les criminels qui cherchent à troubler le repos public. Ajoutons, pour conclure, que tout consiste à accorder les mêmes droits à tous les citoyens d'un État. Est-il permis aux uns de servir Dieu selon les rites de l'Église romaine, qu'il soit permis aux autres de l'adorer à la manière de celle de Genève. L'usage de la langue latine est-il reçu en public, qu'on le permette aussi dans les temples? Peut-on se mettre à genoux chez soi, se tenir debout, demeurer assis ou tenir quelque autre posture, faire tel ou tel geste, porter un habit blanc ou noir, une robe longue ou une robe courte, qu'on souffre tout cela dans les églises, pourvu qu'on ne choque point les règles de la bienséance. Qu'il soit permis d'y manger du pain, d'y boire du vin, d'y faire des ablutions, si quelqu'une de leurs cérémonies le demande. En un mot, que l'on puisse faire, dans l'exercice de sa religion, tout ce qui est légitime dans l'usage ordinaire de la vie. Que, pour toutes ces choses ou d'autres semblables, on ne fasse souffrir à personne aucun tort, ni dans sa liberté, ni dans ses biens. Vous est-il permis de suivre la discipline presbytérienne dans votre église? Pourquoi ne voudriez-vous pas que les autres eussent la liberté de recevoir l'épiscopal? Le gouvernement ecclésiastique, qu'il soit administré par un seul ou par plusieurs, est partout le même. Il n'a nul droit sur les affaires civiles, ni le pouvoir de contraindre, et il n'a pas besoin pour se soutenir de gros revenus annuels. La coutume autorise les assemblées religieuses. Et si vous les accordez à une église ou à une secte, pourquoi les défendriez-vous aux autres? Si l'on conspire dans quelqu'une de ces assemblées contre le bien de l'État, ou que l'on y tienne des discours séditieux, il faut punir cette action de la même manière, et non autrement, que si elle s'était passée dans un lieu public. Les églises ne doivent pas servir d'asile aux rebelles et aux criminels. Mais le concours des hommes doit y être aussi libre que dans une foire ou dans un marché, et je ne vois pas pour quelle raison l'un serait plus blâmable que l'autre. Chacun doit être responsable de ses propres actions, et l'on ne doit pas rendre un homme odieux ni suspect pour la faute qu'un autre a commise. Qu'on châtie rigoureusement les séditieux, les meurtriers, les brigands, les voleurs, les adultères, les injustes, les calomniateurs, en un mot, toutes sortes de criminels, de quelque religion qu'ils soient. Mais qu'on épargne et qu'on traite avec la même douceur que les autres citoyens, ceux dont la doctrine est pacifique et dont les mœurs sont pures et innocentes. Si l'on permet aux uns de célébrer des assemblées solennelles et certains jours de fête, de prêcher en public et d'observer d'autres cérémonies religieuses, on ne peut refuser la même liberté aux presbytériens, aux indépendants, aux arméniens, aux quakers, aux anabaptistes et autres. Et même, pour dire franchement la vérité, comme les hommes se la doivent les uns aux autres, l'on ne doit exclure des droits de la société civile ni les païens, ni les mahométans, ni les juifs, à cause de la religion qu'ils professent. Du moins, l'Église, qui ne juge point ceux qui sont dehors, comme dit l'apôtre, Lettre aux Corinthiens, chapitre 5, versets 12 et 13, n'en a pas besoin, et l'État, qui embrasse et reçoit les hommes, pourvu qu'ils soient honnêtes, paisibles et industrieux, ne l'exige pas. Quoi ? Vous permettriez à un païen de négocier chez vous, et vous l'empêcheriez de prier Dieu et de l'honorer à sa manière ? Les Juifs peuvent séjourner au milieu de nous et habiter vos maisons. Pourquoi donc leur refuserait-on des synagogues ? Leur doctrine est-elle fausse ? Leur culte est-il plus abominable et leur union est-elle plus dangereuse en public qu'en particulier ? Mais si l'on doit accorder toutes ces choses aux infidèles, la condition de quelques chrétiens sera-t-elle pire que la leur, dans un État qui professe l'Évangile de Jésus-Christ ? Peut-être me direz-vous, oui, sans doute, il le faut bien, puisque ceux-ci ont plus de penchant aux factions, aux tumultes et aux guerres civiles. Mais est-ce la faute, je vous prie, du christianisme? Si cela est, nous devons reconnaître que c'est la plus dangereuse de toutes les religions du monde. Et, bien loin que vous deviez l'embrasser, elle ne mérite pas qu'aucun magistrat la tolère. Si elle est ennemie du repos public, et qu'elle soit d'un esprit turbulent, l'Église, que le souverain protège, court grand risque de n'être pas toujours innocente. Mais à Dieu ne plaise que nous ayons une telle idée de la religion chrétienne qui réprouve l'avarice, l'ambition, les querelles, les animosités et tous les désirs criminels et qui ne respire que la paix, la douceur et la modération. Il faut donc chercher une autre cause des maux qu'on lui impute. Et, si nous examinons la chose de près, nous trouverons la solution de cette question dans le sujet même que je traite. Ce n'est pas la diversité des opinions qu'on ne saurait éviter, mais le refus de la tolérance qu'on pourrait accorder, qui a été la source de toutes les guerres et de tous les démêlés qu'il y a eu parmi les chrétiens sur le fait de la religion. Les chefs et les conducteurs de l'Église, remplis d'avarice et d'un désir insatiable de domination, se prévalant de l'ambition des souverains et de la superstition crédule des peuples inconstants, les ont animés et soulevés contre ceux qui n'adoptaient pas leurs opinions, en leur prêchant, contre les lois de l'Évangile et de la charité chrétienne, qu'il fallait priver de leurs biens les hérétiques et les schismatiques et les exterminer entièrement. Et c'est ainsi qu'ils ont mêlé et confondu deux choses tout à fait différentes, l'Église et l'État. Or, il est bien difficile que des hommes souffrent avec patience, qu'on les dépouille des biens qu'ils ont acquis par leur industrie, et que, contre toutes sortes de lois divines et humaines, on les livre à la fureur de leurs compatriotes, surtout d'ailleurs lorsqu'ils sont très innocents, et qu'on les maltraite pour une affaire de conscience qui ne relève que de Dieu. N'est-il pas naturel que, lassés de tous les maux dont on les accable, ils viennent enfin à se persuader qu'il leur est permis de repousser la force par la force, et de prendre les armes pour la défense des droits que Dieu et la nature leur accordent, convaincus que le crime seul les en doit priver, et non pas la religion qu'ils professent. L'histoire ne témoigne que trop que tel a été jusqu'ici le cours ordinaire des choses, et il n'y a nul doute que cela ne continue dans la suite tant que les magistrats et les peuples croiront qu'il faut persécuter les hérétiques et que les ministres de l'Évangile, qui devraient être les héros de la paix et de la concorde, exciteront par tous les moyens possibles les peuples à s'armer et emboucheront les trompettes de la guerre. Cependant, on pourrait s'étonner que les princes laissent agir ces incendiaires et ces perturbateurs du repos public, si l'on n'avait pas lieu de s'apercevoir qu'ils les ont invités au partage des dépouilles et que les princes se sont prévalus de leur avarice et de leur orgueil pour augmenter leur propre pouvoir. Qui ne voit, en effet, que ces bonnes gens ont plutôt été des ministres d'État que des ministres de l'Évangile, que par une lâche complaisance, ils ont flatté l'ambition et le despotisme des princes et des grands de la terre, et qu'ils ont tout mis en œuvre pour établir dans l'État une tyrannie qu'autrement ils n'auraient pas pu introduire dans l'Église. Tel est le funeste concert que nous voyons exister entre ces deux sortes de gouvernements. Au lieu que si chacun se tenait dans ses justes bornes, il n'y aurait pas la moindre occasion de trouble et de discorde, puisque les uns ne doivent travailler qu'au bien temporel de leur sujet, et que les autres ne doivent chercher que le salut éternel des âmes. Sed pudet haec opprobria, etc. J'aurais honte de pousser plus loin mes tristes réflexions là-dessus. Dieu veuille que l'évangile de paix soit enfin annoncé, que les magistrats civils aient moins de soin de se conformer à ses préceptes que de lier la conscience des autres par des lois humaines, et qu'en bon père de la patrie, ils tournent toute leur application à procurer le bonheur temporel de tous leurs enfants, excepté de ceux qui sont revêches, arrogants et injustes envers leurs frères. Dieu veuille que les ecclésiastiques, qui se valent d'être les successeurs des apôtres, marche sur les traces de ces premiers héros de l'Évangile, qu'ils ne se mêlent jamais des affaires d'État, qu'ils soient modestes et paisibles dans toute leur conduite, et qu'ils s'occupent uniquement du salut des âmes dont ils doivent un jour rendre compte. Adieu. Peut-être qu'il ne sera pas mal à propos d'ajouter ici quelque chose sur ce qu'on appelle hérésie et schisme. Un mahométan, par exemple, ne saurait être hérétique ni schismatique à l'égard d'un chrétien. Et si quelqu'un passe de la religion chrétienne au mahométisme, il ne devient pas non plus schismatique ou hérétique, mais un infidèle et un apostat. Il n'y a personne qui doute de ceci, de sorte que les hommes de différentes religions ne peuvent être ni hérétiques ni schismatiques l'un à l'égard de l'autre. Il faut donc examiner qui sont ceux qui professent ou ne professent pas une même religion. Et, sur cela, il est clair que ceux qui admettent la même règle dans le culte et dans la foi sont de la même religion, au lieu que ceux qui ne suivent pas une même règle dans le culte et dans la foi sont de différentes religions. Car, puisque tout ce qui appartient à une religion est contenu dans une certaine règle, il s'ensuit de toute nécessité que ceux qui reçoivent la même règle sont de la même religion, et tout au contraire les autres. Ainsi, les Turcs et les chrétiens sont de différentes religions, parce que les uns suivent l'Alcoran et les autres l'Écriture sainte pour la règle de leur religion. De même, parmi les chrétiens, il peut y avoir de différentes religions. Les catholiques romains, par exemple, et les luthériens, quoique les uns et les autres professent le christianisme, ne sont pas pour cela de la même religion, parce que ceux-ci n'admettent que l'Écriture sainte pour règle de leur foi, au lieu que les premiers y ajoutent des traditions et les décrets des papes. De même encore, les chrétiens qu'on appelle de Saint-Jean et ceux de Genève sont de différentes religions, parce que les derniers ne reçoivent que l'Écriture sainte pour leur guide dans le chemin du salut, au lieu que les autres y joignent je ne sais quelle tradition. Cela posé, il s'ensuit. Premièrement, que l'hérésie est une séparation dans la communion ecclésiastique entre les hommes qui professent la même religion à cause de certaines opinions qui ne sont pas contenues dans la règle elle-même. Secondement, qu'entre ceux qui ne reconnaissent que l'Écriture sainte pour règle de leur foi, l'hérésie est la séparation dans la communion chrétienne pour des opinions qui ne se trouvent pas dans les termes express de l'Écriture. Or, cette séparation peut arriver en deux manières. 1. Quand la plus nombreuse partie, ou celle qui est la plus forte partie d'une église, à cause de la faveur du magistrat, abandonne les autres et les exclut de sa communion parce qu'ils ne veulent pas professer la croyance de certains dogmes qui ne sont pas fondés sur les termes express de l'Écriture. Mais ni le petit nombre de ces derniers, ni l'autorité du magistrat ne sauraient jamais faire qu'une personne soit hérétique. Celui-là seul mérite ce titre qui, à cause de pareilles opinions, déchire le sein de l'Église, introduit des noms et des marques de distinction et se sépare volontairement des autres. 2. Quand on s'éloigne de la communion d'une Église, parce que cette Église ne fait pas une profession publique de certaines opinions qui ne se trouvent pas dans l'Écriture sainte en termes clairs et positifs. Les uns et les autres sont hérétiques, parce qu'ils errent dans ce qu'il y a de fondamental et qu'ils errent obstinément contre la connaissance. En effet, après avoir admis l'Écriture sainte pour l'unique fondement de leur créance, ils admettent néanmoins comme fondamental d'autres propositions qui ne sont pas dans l'Écriture et, sur ce que leurs frères ne veulent pas recevoir ces opinions qu'ils ont ajoutées, ni les regarder comme fondamentales ou nécessaires pour le salut, ils font une séparation dans l'Église, en se retirant d'avec les autres ou en les chassant de leur communion. Il ne leur sert à rien de dire que leurs symboles et les articles de leur croyance sont conformes à l'Écriture sainte et à l'analogie de la foi. Car, s'ils sont conçus dans les termes express de l'Écriture, il ne saurait y avoir de dispute à ce sujet, puisque tous les chrétiens avouent que ce livre est inspiré et qu'ainsi, tout ce qu'il nous enseigne est fondamental. Que s'ils disent que les articles dont ils exigent la profession sont des conséquences tirées de l'Écriture sainte, ils font bien sans doute d'y ajouter foi, mais ils ont tort de vouloir les imposer à ceux qui ne les trouvent pas conformes à l'Écriture. Et ils deviennent eux-mêmes hérétiques si, sous des dogmes qui ne sont ni ne sauraient être fondamentaux, ils se séparent de la communion générale. Du moins, je ne crois pas qu'il y ait un homme assez extravagant pour oser donner ses explications de l'Écriture sainte et les conséquences qu'il en tire pour des inspirations divines, ni pour comparer à l'autorité de ce même livre les articles de foi qu'il en a composés, selon les faibles lumières de son esprit. Il est vrai qu'il y a de certaines propositions si évidentes, quoiqu'elles ne soient pas conçues dans les termes de l'Écriture, qu'il est facile de s'apercevoir qu'elles en découlent. Ce n'est pas aussi de celles-là dont on peut discuter. Je dis seulement que, si clairement que telle ou telle doctrine nous paraisse être déduite de l'Écriture, nous ne devons pas, pour cela, l'imposer aux autres comme un article de foi nécessaire, à moins que nous ne consentions que d'autres doctrines nous soient imposées de la même manière et qu'on puisse nous forcer à recevoir et à professer toutes les opinions diverses et contradictoires des luthériens, des calvinistes, des remontrants, des anabaptistes et autres sectes que les faiseurs de symboles, de systèmes et de confessions ont coutume de donner à leurs adeptes pour des déductions naturelles et nécessaires de la Sainte Écriture. Pour moi, je ne puis m'empêcher d'être surpris de l'extravagante arrogance de ces gens qui croient pouvoir expliquer les choses nécessaires au salut plus clairement que le Saint-Esprit lui-même, que l'éternelle et infinie sagesse de Dieu. Voilà ce que j'avais à dire au sujet de l'hérésie, mot qui, dans sa signification ordinaire, ne s'applique qu'à la partie dogmatique de la religion. Considérons maintenant le schisme, genre de crime ou d'imputation, qui s'en rapproche beaucoup. Du moins, il me semble que l'un et l'autre de ces termes signifient séparation mal fondée à l'égard de la communion ecclésiastique pour des choses qui ne sont pas nécessaires au salut. Mais, puisque l'usage, qui est la loi suprême du langage, a établi qu'on nommerait hérésie les erreurs dans la foi et schisme celles qui regardent le culte et la discipline, je prendrai ces mots dans le sens de cette distinction. Le schisme, donc, n'est autre chose qu'une séparation faite dans la communion de l'Église à l'occasion de quelque chose dans le culte divin ou dans la discipline ecclésiastique qui n'en est pas une partie nécessaire. Or, il ne peut y avoir de nécessaire à une communion chrétienne, dans le culte ou la discipline, que ce que Jésus-Christ lui-même, notre souverain législateur, ou que ses apôtres, par l'inspiration du Saint-Esprit, ont commandé en termes tout express. En un mot, celui qui ne nie rien de tout ce qui est enseigné en termes express dans l'Écriture sainte et qui n'abandonne aucune église à cette occasion ne peut être schismatique ni hérétique, de quelque nom odieux qu'on le charge d'ailleurs, et quand même, toutes les sectes chrétiennes encore le déclareraient déchu du christianisme. Je pourrais mettre cela dans un plus grand jour et m'y étendre davantage. Mais ce peu de mots doivent suffire pour une personne aussi éclairée et qui a autant de pénétration que vous.